Bienvenue alors, merci d'être ici pour nous apporter votre éclairage.
Merci.
Je crois que vous avez préparé un petit exposé, donc on va d'abord vous entendre et puis ensuite vous poser les questions.
D'accord.
On ne manquera pas de susciter.
Ok, je vous ai entendu déjà un petit peu auparavant commencer à parler des coûts des transports et de la desserte du Valais. Je suis aussi un Chablaisien, maintenant lausannois, donc je connais également la desserte du Valais. Donc en 5-10 minutes, je pensais vous brosser quelques aspects de la mobilité des travaux qu'on fait actuellement et puis éclairer en fait deux idées reçues. La première, c'est une sorte d'idée double, c'est une sorte de défaitisme assumé, c'est-à-dire de toute façon les transports publics on n'y arrivera jamais, il y a des différences culturelles qui sont trop fortes, tout le monde est accroché à la voiture, donc une sorte de pessimisme ou de fatalisme qui se double des fois d'autres bords d'un optimisme un peu moralisateur où on dit il y a tant de pourcents de déplacements en voiture qui font moins de 3 km, donc tous ces déplacements-là, il faut absolument les mettre, les faire par la marche ou le vélo, parce que moins de 3 km, ça ne peut pas se faire en voiture. On a un peu des fois ces deux optiques qui s'opposent, donc je vais développer très brièvement. Et puis la deuxième idée reçue, c'est les idées reçues sur le péage urbain, qui est jugé comme une solution innovante et intéressante en se basant sur les expériences soi-disant réussies de Londres et de Stockholm. Donc j'apporterai quelques pierres à l'édifice pour montrer que c'est peut-être pas aussi rose que ça. Alors là, pour revenir à ces idées reçues, bon, le défaitisme assumé, vous en avez parlé déjà un petit peu, on constate effectivement, ne serait-ce que pour la possession du demi-tarif, les chiffres du micro-recensement transport 2005 sont sortis mardi passé, donc c'est une grande enquête qui analyse toute la mobilité des Suisses. Et puis, sans vous abreuver de chiffres, mais juste quelques-uns, en Suisse alémanique, il y a 31% des gens qui ont un abonnement de demi-tarif. En Suisse romande 15% et puis en Suisse italienne 9%. Donc c'est bien vrai qu'il y a des différences dans l'utilisation des transports publics et dans la possession des abonnements entre les différentes parties du pays. Mais quand on va analyser un peu plus loin, est-ce que c'est vraiment des différences culturelles, je pense que c'est un raccourci un peu facile de dire que c'est que culturel, parce qu'on a mené une étude notamment sur les gens qui se déplacent en voiture pour aller à leur lieu de travail. On voit que les Bernois qui ont une place de parc réservée à leur lieu de travail, ils sont 98% à utiliser la voiture, comme les Français, comme les Lausannois, comme les Genevois. Donc l'impact de la disposition d'une place de parc est extrêmement fort et peut pas être réduit à une différence culturelle. On a également la vision selon laquelle les Suisses alémaniques auraient peut-être une image plus négative de la voiture que les Suisses romands accros à la voiture, etc. Ce qu'on constate, c'est que c'est surtout l'utilisation ou non de la voiture qui détermine son image. C'est-à-dire que les personnes qui n'utilisent pas la voiture en Suisse romande ont une image aussi négative que les Suisses alémaniques qui ne les utilisent pas. Et à contrario, les Suisses alémaniques qui utilisent la voiture en ont une image positive. Donc là aussi, ne pas trop mettre sur le culturel. Par contre, ce qui est peut-être culturel à la base, c'est que l'offre en matière de transport collectif est effectivement très très différente entre les différentes parties. Ça, vous l'avez déjà relevé. Il y a des expériences intéressantes qui ont été faites, notamment entre Berne et Soleure, où on a passé une cadence 15 minutes, un petit train, les dimanches, ce qui a surpris tout le monde, et puis ça a marché extrêmement bien. C'était même relativement rentable, c'était plutôt des personnes sans abonnement. Et donc, en Suisse romande, on a effectivement encore un retard assez important en matière d'offres qui est en train d'être comblé, mais seulement au fur et à mesure. Et donc je pense que par rapport à ce défaitisme de dire c'est culturel ou ça marchera jamais, la question de l'offre est effectivement prioritaire. Il faut d'abord qu'il y ait une bonne offre pour ensuite essayer de convaincre les gens de l'utiliser. On l'a vu dans une étude qu'on a faite à propos du tunnel de Glion lors de sa fermeture. C'est pas non plus suffisant d'avoir une bonne offre. parmi lors de la fermeture du tunnel, il y avait quand même une proportion importante de personnes qui restaient scotchées à leur voiture, qui restaient dans les bouchons, parce que la voiture était jugée beaucoup plus confortable que le train, même s'il était plus lente, même si les personnes se levaient à 5 heures du matin pour partir du Valais, pour être avant 6 heures sur le lieu de Glion. Donc l'offre n'est pas suffisante. Il y a souvent un petit élément de contrainte. Par exemple, Glion, ça a poussé beaucoup de personnes sur le train, à peu près 1000 personnes par jour, qui avaient, entre guillemets, perdu l'habitude d'utiliser le train et qui sont restées fidèles après. Donc il a fallu un petit coup de pouce pour qu'elles remarquent que l'offre était là et puis qu'elle s'était bien améliorée. L'autre optique, c'est l'optimisme moralisateur, comme je le disais. Alors, raisonner en pourcentage de déplacements inférieur à 3 km, donc j'ai regardé les chiffres pour 2005, on a effectivement 22% des déplacements en voiture en 2005 qui font moins de 3 km. Mais sous tous ces déplacements, il y en a une grande partie qui se suivent les uns après les autres. On peut faire moins de 3 km pour aller chercher du pain, et puis ensuite 40 km pour aller à son lieu de travail, et puis revenir ou amener son enfant à l'école, etc. Donc raisonner petit morceau par petit morceau, c'est pas une vision globale qui permet de basculer des personnes sur d'autres moyens de transport. Et à ce titre-là, il faut plutôt réfléchir en termes de boucles de déplacement qui correspondent beaucoup plus à la mobilité, c'est-à-dire additionner tous les petits déplacements. Et dans ce cas-là, raisonner en disant les boucles de mobilité qui font moins de 3 km, alors celles-là, effectivement, on pourrait les mettre sur d'autres moyens de transport. Il y a des marges de manœuvre importantes dans le périurbain en particulier. Pourquoi est-ce que les gens utilisent que la voiture dans le périurbain, même pour faire moins de 3 km? C'est essentiellement parce que les aménagements piétonniers ou même les aménagements pour les cyclistes manquent. Et donc c'est dangereux des fois d'aller à pied dans le périurbain. Donc on préfère prendre sa voiture, même pour des petits déplacements. Et puis pour passer rapidement à la deuxième idée reçue, ben c'est celle sur les péages urbains. Donc il y a différents types de péages qui existent depuis longtemps. Les péages norvégiens étaient essentiellement des péages pour obtenir des recettes, mais pas pour faire baisser le trafic automobile. Et puis Londres et Stockholm se sont retrouvés sous les feux de l'actualité depuis leurs expériences. Alors, en deux mots, Londres, le problème du péage urbain à Londres, c'est que les objectifs sont contradictoires. On veut d'un côté faire baisser la circulation et de l'autre obtenir beaucoup d'argent pour les transports publics, où il y avait un sous-investissement massif depuis ces dernières années. Et donc, c'est presque par définition que ces deux objectifs sont contradictoires, et c'est illustré parce que la circulation a effectivement bien baissé, donc on a un effet de seuil lié à ce péage urbain. Par contre, il n'y a pas eu du tout assez de recettes pour les transports publics, donc on a été obligé d'augmenter la taxe et d'augmenter la taille de la zone soumise au péage. Et donc, il faut payer maintenant 18 francs par jour pour entrer dans cette zone-là. Et on a des effets ségrégatifs qui sont assez clairs, qu'on a vu aussi dans d'autres études qu'on a menées sur Zurich et Berne à propos du prix du parking. Les caricatures les plus courantes sont vérifiées, c'est-à-dire les personnes qui ont le plus d'argent peuvent librement se déplacer en voiture. C'est même mieux pour elles parce qu'il y a moins de voitures, donc la circulation est plus fluide. Donc on a d'un côté on a un appel à se promener en voiture si on a les moyens, parce que la circulation est plus facile. Sur Stockholm, on a le problème d'une récupération politique de ce projet. Donc c'était un test qui a coûté horriblement cher, qui a coûté 700 millions de francs pour un test de 7 mois. Et il y a eu à peu près 15 millions de francs suisses de recettes par mois. Donc on peut dire vraiment des cacahuètes pour les transports collectifs. Et le souci qu'il y a eu majeur à Stockholm, c'est que le jour du référendum sur le maintien ou non de ce projet de péage avait lieu également des élections. Et les habitants de Stockholm et la banlieue ont accepté, enfin la banlieue n'a pas accepté, mais en moyenne, la population concernée a accepté le maintien du péage urbain, et en même temps a élu, donné la majorité à une majorité politique qui était contre le péage urbain, qui s'est retrouvée en porte-à-faux. Et donc la majorité politique a finalement a décidé de réfléchir un peu et probablement va remettre en place le péage urbain. Par contre, les recettes n'iront plus pour les transports publics, mais pour construire des routes dans les communes périphériques. Donc là, on a une perversion du système. Et il y a une étude très très poussée et fouillée, très intéressante, qui a été faite sur les effets du péage urbain à Stockholm, où on voit que l'essentiel du report sur les transports collectifs, c'était lié au déplacement domicile-travail. Les personnes qui se rendaient au centre-ville de Stockholm pour leurs loisirs ou pour les achats, au lieu de payer le péage urbain et au lieu d'utiliser les transports collectifs, ont préféré aller ailleurs. Donc ça pose tout le problème du rôle qu'on entend donner au centre-ville. Est-ce qu'on veut barricader le centre-ville pour en faire un centre-ville agréable pour ceux qui ont les moyens de payer ou ceux qui y résident, et puis repousser à l'extérieur ceux qui n'ont pas les moyens de payer ou ceux qui préfèrent finalement faire leurs achats ailleurs. Donc en Suisse, qu'est-ce que ça signifie? Ben, il y a différents projets de tests qui existent. On pourra en discuter tout à l'heure et je terminerai par là. Ce qui me semble plus intéressant comme voie à explorer serait plutôt un péage routier généralisé, c'est-à-dire indépendamment du fait qu'on entre en ville ou pas. La Suisse est un pays extrêmement urbain, donc où placer la limite? Si on imagine un péage urbain à Lausanne, est-ce que la limite elle doit être à Prix? Est-ce qu'elle doit être à Chaudron? Est-ce qu'elle doit être ailleurs? Donc ça permettrait d'éviter ce genre de problème. Et puis, il faudrait surtout que les frais de collecte soient extrêmement faibles. Donc, imaginez quelque chose sur le principe de la taxe poids lourd ou un péage par un système de GPS. L'Angleterre est en train de réfléchir à un type de péage généralisé sur tout son territoire. Ça permettrait également de moduler les tarifs en fonction des régions pour éviter de pénaliser les régions périphériques. Mais surtout, ça éviterait que les frais de collecte soient beaucoup trop importants. Voilà. Alors maintenant, je réponds volontiers aux questions.
J'aurais une première petite question.